Et tout de suite, nous retrouvons Valérie Zenati. On commence par une lecture, Valérie Zenati.
Le 1er janvier, je composais le numéro d'Aaron Appelfeld pour lui souhaiter une bonne année, une année d'écriture et de quiétude, et j'apprenais qu'il était hospitalisé depuis 2 jours, mais qu'il allait probablement sortir bientôt. Il dormait, et je ne pouvais lui parler. Le mercredi 3 janvier, les médecins ne pouvant se prononcer sur son état, j'ai réservé un aller-retour Paris-Tel Aviv pour le lendemain matin. J'ai passé la nuit allongée dans mon lit, le corps raide, incapable de dormir, entendant sa voix et lui parlant, dans un dialogue d'une densité qui m'affolait et me comblait. Nos phrases s'entremêlaient pour faire surgir avec une précision absolue la matière vivante et brûlante de tout ce qui nous reliait. J'ai réussi à dormir 1 heure avant que le réveil sonne, et dans le taxi qui me conduisait à l'aéroport, à 7h04, une alerte du quotidien israélien Haaretz s'est inscrite sur l'écran de mon téléphone, annonçant « L'écrivain Aaron Appelfeld, lauréat du prix de littérature d'Israël, est mort cette nuit, à l'âge de 85 ans. »
Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour Caroline Brouet.
Merci d'être là avec nous ce matin. Vous venez de nous lire un extrait du début de votre nouveau livre « Dans le faisceau des vivants » paru aux éditions de l'Olivier, la même où paraissaient en français les livres d'Aaron Appelfeld que vous avez longtemps traduit. Aaron Appelfeld, écrivain israélien, mort il y a tout juste un an,
c'était oui,
le 4 janvier 2018. Immense écrivain qui nous laisse une série d'ouvrages magistraux et dont on se souvient toute sa vie, je crois, quand on les a lus. Ce livre, Dans le faisceau des vivants, vous l'avez pensé comme un hommage ou plutôt comme le récit de comment, après avoir appris avec lui, après sa mort, avoir appris à vivre sans lui?
Alors je crois, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que je ne l'ai pas du tout pensé, ce livre. Il s'est imposé à moi exactement à ce moment que vous m'avez demandé de lire là maintenant, c'est-à-dire dans la nuit qui a été celle de sa mort, mais j'ignorais que c'était celle de sa mort. Et il y a eu ces quelques heures où il s'est passé en moi quelque chose à la fois de très, très élaboré, je pense. On s'est parlé. Il y avait ce dialogue intérieur entre lui et moi. Moi, cette traductrice, lui, mon ami, cet écrivain que j'ai traduit. Et puis, au matin, j'avais tout oublié. Et dans l'avion qui m'a emmené en Israël, j'essayais de me souvenir de ce que nous nous étions dit, en quelque sorte. Et j'avais tout oublié. Et je crois que, à partir de ce moment-là, je n'ai eu de cesse de vouloir saisir ce qui était en train de se passer. Et c'est peut-être la deuxième proposition que vous faites, celle de chercher à cerner l'ébranlement de la rencontre avec Aaron, puis l'ébranlement de sa disparition qui a conduit à la nécessité de ce livre. Et pendant quelques semaines, il ne pouvait rien avoir d'autre dans ma vie, je crois, que l'écriture de ce livre.
Saisir ce qui se passait implique 2 mots principaux récurrents dans votre ouvrage, Valérie Zenati. Ces 2 mots, c'est le silence d'abord et les tremblements ensuite. Oui. Les tremblements accompagnent le livre, accompagnent peut-être l'écriture, ont accompagné l'écriture de ce livre, en tous les cas accompagnent sa lecture. Est-ce que vous avez aussi écrit pour mettre fin à ces tremblements et à ce silence?
Alors, le silence, je voulais l'entendre. C'est-à-dire que Aaron Appelfeld a toute sa vie parlé du silence. Et quand je le traduisais, je savais bien que c'était quelque chose de central chez lui. Plusieurs silences d'ailleurs, parce qu'en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire le silence. Alors qu'en français, bon, on retombe toujours sur le silence. Mais ce qui m'a frappée d'emblée, à partir du moment où je suis revenue en France, après les obsèques d'Aaron, c'est que le silence après la mort d'Aaron était vraiment un silence dans lequel seule la voix d'Aaron pouvait résonner pour moi. Et je l'entendais, je m'entendais, j'entendais ce qui nous reliait. Parce que pour moi, au-delà du fait qu'il était lui et que je suis moi, je crois que cette expérience de rencontre, c'est quelque chose qui cerne peut-être ce qui se joue de la manière la plus inaccessible dans une rencontre, justement. Une rencontre avec quelqu'un éloigné dans le temps, il est éloigné dans l'espace. Il est né en 1932 à Tchernovitz, moi à Nice en 1970. Lui vient d'une famille juive, ashkénaze, assimilée, bourgeoise. Il a vécu la guerre, il a tout perdu, il s'est retrouvé seul en Israël en 1948, donc bien avant ma naissance.
Après avoir passé plusieurs années tout seul, enfant, dans une forêt.
Voilà, s'échappant du camp. Voilà.
Ayant vu sa mère assassinée juste au début de la guerre.
Exactement. Ayant perdu la trace de son père, qu'il a retrouvé bien plus tard, mais toujours est-il qu'après la guerre, il avait perdu toutes les langues qu'il parlait, l'allemand, le ruthène, le russe. Il dit même qu'il s'était tellement habitué à ne pas parler qu'il avait mal aux mâchoires lorsqu'il ouvrait la bouche et il bégayait parce qu'il ne n'avait pas parlé pendant la guerre. Et donc, Aaron vient de cette histoire-là, du début de la création de l'État d'Israël, dans le combat avec une langue qui n'était pas la sienne, l'hébreu, pour devenir écrivain. Et moi, je suis née en 1970, de parents venus d'Algérie, de Tunisie, ayant le français pour langue maternelle, étant partie aussi en Israël à l'âge de 13 ans, évidemment qu'il y a un point de jonction là, mais n'ayant pas choisi l'hébreu pour langue d'écriture. Je suis toujours dans ma langue d'écriture, dans ma langue maternelle qui est le français. Et donc, au départ, je dirais pas que tout nous oppose, mais rien a priori ne nous réunit. Et je pense que ce qui s'est joué dans la rencontre aussi bien littéraire qu'affective avec Aaron Appelfeld, c'est ce qui est, encore une fois, au cœur de toute rencontre, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse de très loin les données autobiographiques d'un être. Et donc, quand Aaron est mort, j'ai été évidemment sidérée. C'est vrai que j'ai commencé à trembler et je n'ai pas pu m'expliquer ce tremblement, mais pendant des semaines, je tremblais.
Mais il y avait cette voix en vous qui résonnait, cette voix qu'on va écouter. Aaron oui. Appelfeld, c'était en 2011 sur France Culture.
Oman bli hayelet shebo.
Un artiste sans l'enfant qui est en lui ne peut pas être un artiste sérieux. Sans l'enfant qui est en lui, on devient quelqu'un de rationnel, on devient cynique, on devient à deux faces. Il n'y a pas cette naïveté qu'il y a chez l'enfant. Et sans cette capacité de s'étonner, on commence à être quelqu'un qui explique, qui commente, sans cette première approche. Ma vie en tant qu'enfant en Europe, cette enfance, elle a été horrible, atroce. C'était les années de guerre m'ont nourri de poison et de choses mauvaises. Mais parce que j'étais un enfant, ça semble comme être une histoire, une légende. J'espérais chaque jour, j'étais près de l'eau, j'attendais que mes parents reviennent. Je disais, si je vais voir un cheval blanc, ça sera le symbole, ça sera le signal que mes parents vont revenir. Et c'est ainsi que je ne les ai pas quittés. Ils n'ont pas été séparés de moi. Ils étaient avec moi alors, comme ils sont avec moi aujourd'hui. Eh bien, si l'on peut dire ainsi, je rends grâce à Dieu qu'il ne m'ait pas pris l'enfant qui est en moi. Et que je ne sois pas devenu quelqu'un de cynique, quelqu'un qui voit la vie sans aucun sens.
Aaron Appelfeld avec la voix radio française, Michel Zlotowski. Valérie Zenati, c'est extraordinaire ce qu'il dit là, parce que ça résonne magnifiquement avec ce que vous écrivez vous. Vous dites, ce qui l'intéressait était la part irréductible de chacun, ce que l'on ne peut arracher à l'homme, sa capacité ou son incapacité à aimer, ses peurs, sa jalousie, son histoire, et par-dessus tout, il s'adressait à l'enfant qu'il avait en face de lui. C'est ainsi, ajoutez-vous, que j'ai vu des journalistes en apparence rompus à l'exercice se mettre à sangloter après l'avoir interviewé. Et j'avoue qu'effectivement, en entendant ce qu'on vient d'entendre, j'avais moi-même sangloté. Valérie Zenati, c'est ça qui déterminait l'écriture d'Aaron Appelfeld, oui. Cette voix qui cherchait la part irréductible en chacun de nous.
Oui, alors non seulement son écriture, mais aussi son rapport aux êtres. C'est-à-dire qu'il y avait chez Aaron une cohérence absolument incroyable entre la personne qu'il était, le regard qu'il avait sur les gens en public, et l'écrivain qu'il était. Et souvent, dans les rencontres que nous faisions, les gens venaient me voir ensuite et me disaient « Parfois, on est déçu quand on rencontre un écrivain dont on aime les livres. » Et là, ce n'était absolument pas le cas. Au contraire, même, peut-être que la rencontre amplifiait encore quelque chose, parce que soudain, ils avaient en face d'eux cette voix, ce regard, et sur eux aussi. Et je pense que Aaron a grandi dans un monde où il n'y avait plus de loi. Enfin, on peut pas se lasser, je crois, d'interroger cette période-là, non pas pour revenir toujours vers le passé, mais pour comprendre peut-être comment tous ces ébranlements de la guerre irradient encore jusqu'à aujourd'hui, pas seulement la littérature, mais les comportements humains. Et Aaron a été le témoin de ce moment où l'individu n'était plus protégé, ou ni par sa fonction sociale, ni par sa force physique, ni par son intellect, ses diplômes. Il a vu les êtres humains être dépouillés, de tout ce qu'ils avaient acquis pour trouver une place dans le monde, et réduits par les nazis à des... Bon, ils pouvaient même pas qualifier à quoi ils avaient été réduits, donc déshumanisés. Et lui, son entreprise, je crois, a été de retourner vers l'humanité en permanence, c'est-à-dire de s'intéresser à l'individu et à ce qui fait que chacun est absolument unique. Alors, ça paraît quelque chose d'acquis, mais la guerre avait effectivement essayé de gommer ça et de faire des juifs, notamment, et pas seulement des juifs, des masses qu'on pouvait exterminé. Et lui, vraiment, je crois que ça a été l'entreprise de toute sa vie, voulait revenir à l'individu, au particulier, à ce qui fait qu'un être est à l'autre pareil, est une vie, et à la fois sacrée, unique, et devrait être totalement protégée.
Valérie Zenati, vous l'avez rencontré par un livre, par la lecture d'un livre, qui vous a donné ensuite très envie de le traduire. Vous avez traduit plusieurs de ses livres. Alors, je vais citer d'ailleurs plusieurs de ses livres, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Histoire d'une vie, L'amour soudain, Le garçon qui voulait dormir, Les partisans et le dernier, Des jours d'une stupéfiante clarté. Vous ne les avez pas tous traduits, mais vous en avez traduit certains dans votre propre livre qui paraît ces jours-ci aux éditions de l'Olivier dans le faisceau des vivants. Vous faites entendre vos deux voix, vous entremêlez vos deux voix. On a une tradition de conférences, de discours qu'il a tenu, Aaron Appelfeld, et puis on a votre propre voix, votre récit qui dit jeu, les deux voix s'entremêlent. Je me suis demandé ce que ça voulait dire, finalement, être la voix française, via la traduction, qu'est-ce que ça veut dire d'être la voix française de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que cet exercice de traduction? Qui plus est, quand c'est un ami qu'on traduit?
Alors, je crois que quand j'ai commencé à traduire Aaron Appelfeld, je me suis souvenu d'une phrase de Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, où il disait que tout écrivain devrait passer par la traduction, parce qu'il faut... Bon, il faisait partie de ces écrivains traducteurs du début du XXe siècle, Romain Rolland, enfin, toute cette intelligentsia-là. Et il disait que tout écrivain devrait traduire parce qu'il faut torturer sa langue avant de pouvoir l'utiliser. Et ça, alors torturer, bon, c'est un terme violent, mais ça veut dire quoi? Je pense que la traduction interroge la langue d'arrivée, interroge la langue d'écriture de l'écrivain, en essayant de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas spontanément. Quand je traduis les livres d'Aaron Appelfeld, j'essaie de faire dire aux Français quelque chose qu'il n'a jamais dit et qu'il n'est peut-être pas tout à fait capable
mais
de dire.
Mais c'est une langue ou c'est un esprit que vous traduisez?
Alors, je pense que... alors, moi, il se trouve que je, à deux exceptions près, je ne traduis qu'Aaron Appelfeld, donc je traduis la langue, l'hébreu d'Aaron Appelfeld. Je ne traduis pas de l'hébreu. Techniquement, je suis capable de traduire de l'hébreu, mais je traduis l'hébreu d'Aaron Appelfeld, les livres, les personnages, les romans. Et je crois que j'ai le sentiment, puisque moi j'ai commencé à publier, je fête cette année mes 20 ans d'écriture et de publication, donc j'ai commencé à publier pour les enfants en 1999 et à traduire Aaron Appelfeld en 2003. Je crois que la traduction des livres d'Aaron Appelfeld fait partie de mon écriture, de mon travail d'écriture, de mon rapport à la langue. Je cherche à saisir quelque chose de la vie, des êtres, des questions essentielles, existentielles même, à travers ce que j'écris et ce que je traduis de lui.
Et puis il y a autre chose que vous avez en commun, Valérie Zenati, avec Aaron Appelfeld, c'est l'amour de la musique. Oui. Écoutez-le parler du rapport entre écriture et musique, toujours en 2011 sur France Culture.
L'écriture ressemble beaucoup à la musique. La musique doit se trouver dans les doigts. Pour qu'elle puisse s'exprimer par le violon, par exemple, elle doit être dans les doigts. Jouer d'un instrument, ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense. Non, non, ce sont les doigts. Les doigts. Eh bien, tout d'abord, l'écriture, c'est une musique. Cette musique, c'est le lien entre le rationnel et l'irrationnel, entre le conscient et l'inconscient. Grâce aux doigts, par l'intermédiaire des doigts, on arrive à cela. Et ce n'est pas par l'intermédiaire du cerveau ou de la pensée. C'est un aspect. Le second aspect, qui est lié également à la musique, l'écriture, c'est comme une prière. Comme une prière. On se lève le matin et on se retrouve devant la page blanche. Et là, c'est comme si on disait « Ah, quand donc mes doigts vont toucher le papier de la bonne manière ?» Ce toucher entre le doigt et le papier, ce toucher sensuel, c'est ça qui mène à l'art, la musique et la prière.
Sa facem la giamparale, sa facem la giamburia, molte buone giamparale, haida haida moscele!
Valérie Zenati, vous avez donc en commun l'amour de la musique. On entend là Giamparale et des yeux noirs. Il se trouve que votre livre Dans le faisceau des vivants commence par l'écoute d'un violoniste. Vous êtes vous-même violoniste d'ailleurs. Commence par l'écoute d'un concert d'un violoniste et chanteur le 31 décembre 2017. Les yeux noirs.
Erit Slaviak, les yeux noirs, oui, tout à fait. Et c'est un air roumain qu'on vient d'entendre. Et Aaron, venant de Roumanie, je pense qu'il a peut-être entendu cet air-là. Je trouve qu'il y a dans ce violon une vivacité et une joie. Parce que souvent, quand on parle d'Aaron, on a l'impression qu'on est aussi dans quelque chose qui est solennel. Mais pas du tout. Aaron n'était pas quelqu'un de solennel. Il pouvait être sérieux. Mais la joie était son domaine. Et je pense que la joie de la musique, on l'a entendu tout à l'heure, le nourrissait énormément. On écoute.
Vous restez avec nous, hein, Valérie Zenati.
Bien sûr.
On vous retrouve dans 2 minutes. Et on retrouve l'écrivaine et traductrice Valérie Zenati, auteure de « Dans le faisceau des vivants » qui vient tout juste de paraître aux éditions de l'Olivier, dans lequel vous rendez, d'une certaine façon, en tous les cas, à votre façon à vous, un hommage à l'ami qui était Aaron Appelfeld et que vous avez très longtemps traduit. Il y a 2 temps et 2 poids, en fait, dans ce livre, Valérie Zenati. Un premier où vous êtes plutôt abattu, où tout est lourd, tout est statique, tout est immobile. Et puis un deuxième où vous vous remettez en mouvement et vous finissez léger. Et ce qui vous remet en mouvement, c'est le voyage à Tchernovitz.
Oui.
Alors aujourd'hui, c'est plus Tchernovitz, hein, c'est Tchernivtsi en Ukraine. Mais c'était la ville de naissance d'Aaron Appelfeld en 1932. Et vous y êtes allé pour son anniversaire.
Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, je ne sais pas si j'étais seulement accablée, parce que j'étais surtout très concentrée sur ce silence et sur le désir d'entendre la voix d'Aaron, de saisir ce qui était là juste après sa disparition. Et puis quelques semaines se sont écoulées j'avais peut-être épuisé ce silence-là. Et là, il y a eu ce désir assez inouï de traverser l'Europe pour aller aux confins de l'ex-empire austro-hongrois, parce que Tchernovitz était à l'époque la ville la plus à l'est de l'empire austro-hongrois. Ensuite, ça appartenait à l'Ukraine, à la Roumanie. Aujourd'hui, c'est en Ukraine. Et j'ai fait ce voyage qui a été pour moi le moment où quelque chose, la fiction et la réalité se sont emmêlées d'une manière qui reste presque mystérieuse pour moi. C'est-à-dire que j'ai traduit pendant des années les livres d'Aaron dans lesquels Tchernovitz était présente, la rivière, le Prout, tout ce que je n'avais jamais vu et que j'avais traduit était incarné devant moi.
Et c'est là que les tremblements se sont arrêtés. C'est aussi là que vous vous mettez, Valérie Zenati, à vous adresser directement à Aaron Appelfeld par un tu au milieu d'une phrase et surtout au milieu d'un repas. Il se trouve que l'année 2018 avait commencé avec la mort d'Aaron Appelfeld et qu'elle s'est terminée avec celle d'Amos Oz, autre grande figure des lettres israéliennes, autre grande conscience de notre temps. C'est quoi qui disparaît avec eux deux? Une génération, deux grands écrivains, deux grandes consciences du monde, deux grands témoins, c'est quoi pour vous?
Alors, c'est tout cela à la fois. C'est aussi, en ce qui concerne d'Israël, je crois, 2 visages d'Israël parmi les multiples visages de ce pays. C'est un tout petit pays, mais qui, étant extrêmement jeune et constitué de gens venus du monde entier, offre différents visages. Amos Oz et Aaron Appelfeld avaient quelque chose en commun, c'était l'hébreu, leur langue d'écriture. Ils avaient des histoires légèrement différente puisque Aaron est né en Europe et Amos Oz est né en Israël de parents européens. Et ce léger décalage a beaucoup influencé, je crois, leur écriture. Ils ont eu des enfances totalement différentes. Alors, en apparence, il y avait quelque chose peut-être qui les opposait, c'était le rapport aux politiques. Amos Oz était un écrivain, mais aussi et parfois surtout un écrivain très engagé, ayant fondé La Paix Maintenant et prenant position sur la société israélienne et sur ses rapports avec les Palestiniens et avec les pays arabes en général. Et Aaron Appelfeld, au contraire, comme il avait dit à Philip Roth dans un entretien, fermait la porte au bruit du monde et se refusait à entrer dans une action politique. Je pense que ça faisait partie de leur désaccord, en dehors du fait qu'ils avaient aussi des points d'accord et qu'ils ont enseigné ensemble au même moment quasiment à Beersheva. Et je pense que les deux sont nécessaires pour Israël, tout comme dans tout pays. C'est-à-dire qu'il y a ces écrivains qui prennent en charge le présent et d'autres comme Aaron qui ont une vision méta-historique de l'histoire, qui ont une vision dans laquelle le rapport aux individus, encore une fois, empêche peut-être l'idée qu'il y a des grands mouvements idéologiques. Enfin, c'est une peur de l'idéologie, je crois, qui guidait Aaron dans son refus de s'engager politiquement.
Les deux sont complémentaires aussi du point de vue littéraire, du point de vue de la fiction, bien au-delà d'ailleurs du pays qu'est Israël. Il faut les lire parce que leur patrie était aussi la littérature, Valérie Zenati, et qu'ils laissent des ouvrages au-delà des belles rencontres humaines. Vous en avez connu une longuement. Ils laissent des livres qui sont indélébiles.
Oui, je pense qu'ils ont eu tous les deux un rapport à quelque chose de très important, c'est ce rapport entre l'Orient et l'Occident. Parce que Israël, c'est ça aussi, c'est un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident, entre des langues, une langue orientale et une réalité occidentale. Et en ce sens-là aussi, ils nous parlent précisément.
Et puisque vous parlez de ce pont entre l'Orient et l'Occident, on va se quitter avec une musique occidentale que vous avez choisie. Vous avez choisi Stacy Kent.
Oui, c'est un album que j'ai écouté en 2003, à sa sortie, lorsque j'ai commencé à traduire à Aaron Appelfeld. Et je pense qu'il y avait à ce moment-là, dans ma vie et dans le monde, on était juste après les deux ans après les attentats de New York, il y avait quelque chose d'une grande gravité et un désir aussi de légèreté et de beauté.
Qu'il y a effectivement dans votre livre aussi, Valérie Zenati, dans Le faisceau des vivants.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you've seen that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine.
Joli vœu pour 2019, the best is yet to come. Merci beaucoup Valérie Zenati d'être venue ce matin. Je rappelle le titre de ce très beau récit, Dans le faisceau des vivants, paru aux éditions de l'Olivier, tout comme les livres que vous avez traduits et ceux que vous n'avez pas traduits d'Aaron Appelfeld, dont le dernier que j'ai sous les yeux, Des jours d'une stupéfiante clarté. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne année.
Bonne année à vous.